Père Olivier Thomas Venard, vous êtes dominicain, vous enseignez à l'école biblique de Jérusalem, vous participez aussi à des études interreligieuses judéo-chrétiennes. Quel est le rapport entre ces engagements et vos travaux d'exégèse biblique ?
Dans la mesure où l'exégèse biblique s'intéresse à la parole de Dieu, il est toujours bon de savoir de quel Dieu nous parlons et quel Dieu nous parle dans nos recherches. Et c'est vrai que c'est une belle chose que l'on découvre à Jérusalem, que finalement nos religions ne sont jamais mieux elles-mêmes que dans la rencontre des deux autres. Je parle là des trois monothéismes. Et cette espèce de triangulation est un excellent garde-fou contre toutes sortes d'idolâtries où je prétendrais avoir compris Dieu. Et je prétendrais, parce que je suis bibliste, mieux le connaître que d'autres.
Parmi les nombreux articles que vous avez publiés, un s'appelle « Nommer Dieu dans la Bible ».
Oui, oui, oui.
Comment est-ce qu'on nomme Dieu ? Comment est-ce qu'on arrive justement, quand on étudie le nom de Dieu chez nos amis juifs, musulmans et chrétiens, comment est-ce qu'on arrive à trouver une parole ?
Alors, le point de départ de cet article, c'était la traduction par une jeune philosophe franco-israélienne d'un livre de Jean-Luc Marion qui s'appelle « De surcroît », dans lequel un des derniers chapitres est consacré au nom divin, comme il l'appelle un phénomène saturé. Donc, c'est dans un cadre proprement judéo-chrétien qu'en effet, je me suis beaucoup intéressé à cette question. Par ailleurs, nous avons l'école biblique, un petit séminaire conjoint avec l'université hébraïque qui s'appelle « Le Nouveau Testament comme littérature juive de l'époque du Second Temple ». Et je suis de plus en plus frappé par le fait que Jésus, dans le Nouveau Testament, ne nous fait pas sortir de la structure du nom divin révélé à Moïse. Et d'ailleurs, les imagiers du Moyen-Âge ne s'y trompaient pas, qui représentaient la Sainte Face dans le buisson ardent. « Je suis qui je suis », nous dit Dieu. Et cette structure de son nom, elle est à la fois pleine d'amour, puisqu'il accepte de donner son nom, et pleine d'une tendre ironie, puisqu'il se voile en se dévoilant. « Je suis qui je suis », c'est comme pour nous dire « Je suis comme je vais me manifester si, à l'instar de Moïse, tu acceptes la mission qui te donne. Je suis celui que tu vas découvrir si tu me donnes ta foi. » Et il me semble, et ça c'est une étude que j'aimerais mener d'une manière plus systématique, que Jésus, à travers les quatre évangiles et pas simplement dans Saint Jean, a une attitude par rapport au langage et à la parole humaine qui est tout à fait semblable. C'est un peu comme s'il nous faisait faire un grand voyage à l'intérieur de cette tautologie, comme si Dieu, venu dans la chair, nous présentait un miroir. Quand il nous dit « je suis qui je suis », c'est « je suis tel que tu vas me découvrir ». Et quelquefois, même si l'image n'est pas très respectueuse, je me dis « ça ressemble un peu à l'auberge espagnole où l'on trouve ce que l'on apporte ». Et des psaumes nous le disent. Des psaumes nous disent « tu es rusé avec le rusé, mais tu es bon avec le doux », etc. Et je trouve ça bouleversant parce que ça nous décrit une présence d'un Dieu qui est énormément bon. J'ai quelquefois le sentiment d'une énorme main qui ne sait pas comment nous caresser sans nous faire peur et qui évolue à vue en fonction de nos réactions. Alors, c'est une redécouverte de la transcendance de Dieu, de son extrême proximité en même temps, et je crois que nous partageons ça avec de nombreux amis juifs qui ont soif, eux aussi, de ce que nous appelons une vie théologale.
Parmi aussi vos champs de recherche, il y a la littérature. Vous dites entre autres, la parole de Dieu se fait entendre dans les Écritures, dans la mesure où on la lit comme on lit de la poésie.
Alors oui, c'est un peu une provocation peut-être. La parole de Dieu respire à deux poumons. Nous croyons qu'il y a une révélation dans l'histoire et que tous les travaux de critique historique sont nécessaires pour essayer de la cerner. Mais il y a aussi une révélation dans le langage. Il y a un certain nombre de phénomènes, disons-le, poétiques ou littéraires dans l'Écriture sainte à travers lesquels Dieu nous dit quelque chose. Et c'est peut-être plus accessible d'ailleurs au commun des mortels que des recherches savantes sur ce qui s'est vraiment passé, etc. Donc c'est cet aspect-là qui me fascine, et il me fascine d'autant plus que, là encore, c'est quelque chose que nous partageons avec le judaïsme, cette idée que le texte biblique est un lieu de rencontre. Mais pour cela, il faut accepter non pas seulement de prendre possession intellectuellement ou historiquement ou critiquement du texte, mais aussi de se laisser déposséder en quelque sorte par lui et d'y entrer comme on entre dans un monde, en sachant qu'il nous déborde de toutes parts plutôt que nous allons le maîtriser et lui faire dire un certain nombre de choses. Il est vrai que dans la culture contemporaine, ceux qui ont maintenu cet état-là du langage comme un lieu, en quelque sorte, comme un espace, ce sont les poètes. Mais je crois qu'il y a, le christianisme est grand lorsqu'il respire à deux poumons et lorsqu'il est à la fois mal, en ce sens qu'il n'oublie pas la loi. Peut-être que, je crois que le cardinal Lustiger insistait beaucoup sur le fait qu'on avait eu tendance à l'oublier, tout en ayant, bien sûr, ce désir d'une connaissance connaturelle, d'une certaine expérience mystique, si l'on veut, de Dieu.
En 1999, vous avez collaboré à un livre sur la radicale orthodoxie. Quel est l'apport, selon vous, principal de ce mouvement ?
C'est d'abord une attitude fraîche par rapport à la culture contemporaine. C'est un mouvement essentiellement laïque au départ, donc un mouvement anglo-catholique, lancé un peu dans des milieux high church de l'église anglicane, extrêmement à l'aise dans la culture postmoderne. Et en même temps, c'est un mouvement qui s'est lancé à Cambridge, très à l'aise aussi dans les sources anciennes, en particulier platoniciennes et médiévales. Et moi, ce qui m'a plu, c'est de voir tous ces jeunes-là, tout d'un coup, qui osaient dire, au nom de la foi chrétienne et de la grande tradition orthodoxe chrétienne, « Oui, nous avons quelque chose à dire à la culture, nous n'avons pas simplement à être à la remorque, nous n'avons pas simplement à sans cesse et toujours plus inculturer notre foi au monde moderne, mais peut-être que notre foi a des transformations à opérer dans le monde moderne. » Moi, j'ai trouvé ça très rafraîchissant de voir des gens qui osaient à nouveau parier avec une intelligence ultra sophistiquée, quelquefois trop d'après leurs critiques, mais qui osaient parier sur le fait que la foi chrétienne, sans aucun fondamentalisme, ils sont bien à l'aise dans leurs travaux universitaires, mais la foi chrétienne a encore quelque chose à dire pour réenchanter le monde, pour illuminer la culture, etc. Leur principal apport, c'est d'abord une attitude générale, plutôt que des doctrines particulières. Et puis deuxièmement, c'est justement qu'ils ont élaboré une théologie de la culture, en particulier une théologie du langage. Ils considèrent ce qu'on appelle le postmoderne comme tout simplement l'envers de la modernité. C'est-à-dire, la modernité faisait une confiance démesurée à la raison, et elle a quand même donné les grands totalitarismes sanguinaires que nous avons connus. La postmodernité ne veut plus croire en la raison. Alors, eux admettent avec la postmodernité ce qu'on a appelé la déconstruction linguistique. Et c'est là qu'à mon avis, ils sont très forts. C'est-à-dire que, de fait, nous devons admettre que pas de pensée sans langage. Mais de ce fait, s'il n'y a pas de pensée sans langage, ce primat redonné au signifiant peut ou bien tomber dans une espèce de relativisme, ou bien, lorsqu'elle est reprise, cette pensée, dans le cadre de la grande synthèse chrétienne, nous croyons à l'incarnation du Verbe, et nous croyons que dans la relativité de telle ou telle culture, quelque chose de l'absolu divin, et ça c'est de la sacramentalité, a pu se donner. Et se donner en partage. D'une certaine manière, ils vont assez loin dans les concessions qu'ils font à la pensée postmoderne, en particulier quant à l'importance du langage dans notre accès à la vérité, mais ils inversent les conclusions par une confession radieuse de l'incarnation du Verbe.
Alors, au cœur de ce que vous vivez, Père Olivier Thomas Venard, à Jérusalem, professeur d'exégèse, inséré au cœur des études interreligieuses, comment est-ce que vous vivez cette béatitude « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » ?
Une sœur que j'aime beaucoup m'a dit un jour en Terre Sainte, l'air même que l'on respire est théologique. Il y a une forme de présence de Dieu qui est assez paradoxale. On se sent véritablement enveloppé, précédé par une présence bien plus profonde, bien plus forte, bien plus puissante qu'on ne peut le dire ou qu'on ne peut le décrire. Mais quelque chose de la rencontre avec Dieu, je crois, se vit profondément.
Parmi les personnes que vous avez rencontrées, qui peut-être ont permis plus profondément cette rencontre, il y a le père Marcel Dubois.
Ça a été tout à fait déterminant. Marcel Dubois m'a en quelque sorte fait une perfusion d'expériences judéo-chrétiennes en Israël, puisqu'il était vraiment un homme extrêmement célèbre dans sa patrie d'adoption, puisqu'il est l'un des rares non-juifs à être Grand Prix d'Israël. Dans nos échanges, il m'a véritablement partagé beaucoup de son expérience de l'âme juive, comme il disait, ou de l'esprit israélien, de toute la fierté qu'on peut avoir dans ce pays qui s'est construit ou reconstruit, etc. Ça, c'est le versant très lumineux. Et puis, le versant plus douloureux, c'est que Marcel Dubois, dans les 15-20 dernières années de sa vie, a mieux pris en compte l'autre récit qui a cours en Terre Sainte, celui du côté des Palestiniens. Et d'une manière toute simple, il est tout simplement devenu ami de son chauffeur de taxi, qui est membre d'une famille, modeste d'Arabes musulmans de Jérusalem-Est, et qui lui ont raconté tout simplement, et sans violence, comment, petit à petit, ils avaient perdu leurs terres ancestrales qui père faisait paître les moutons et que c'était devenu un jardin public. Et tout d'un coup, donc à la fin de son existence, Marcel était dans une espèce de nostalgie, un peu tiraillé, très courageux au milieu de tout ça. Et donc ça a été pour moi à la fois un grand enrichissement et un avertissement.
Merci.
Merci à vous.
Merci.